géant, aile de géant, aile de géant, aile de géant. Bienvenue sur Aile de géant, le podcast de l'école des lettres. Aujourd'hui, Aile de géant reçoit le romancier et scénariste Pierre Lemaître, notamment pour évoquer l'adaptation de ses romans en bande dessinée aux éditions Rue de Sèvres. Citons donc Au revoir là-haut et Couleur de l'incendie, scénarisé par lui-même et illustré par Christian Demeter, Cadre noir, en 2 tomes pour l'instant sur un scénario de Pascal Berthaud et des dessins de Giuseppe Liotti, et Brigade Verhoeven en 3 tomes sur un scénario de Pascal Berthaud et des illustrations de Yannick Corbeau. Bonjour Pierre Lemaître.
Bonjour.
Alors aujourd'hui on est le 7 novembre 2023. C'est le jour de remise de prix Goncourt, 10 ans après le vôtre. Qu'est-ce que le prix Goncourt a changé dans votre vie ?
La réponse va être très simple, tout. Tout, parce que le prix Goncourt n'est pas seulement un prix littéraire. C'est un emblème de la culture française, c'est un événement médiatique qui touche y compris des gens qui ne lisent pas. Je pense que l'Académie Goncourt a réussi quelque chose quand même d'assez exceptionnel, c'est de faire en sorte que la littérature puisse rester encore un grand événement annuel, un grand rendez-vous. Donc ça, bravo, chapeau, respect à l'Académie Goncourt pour avoir réussi ce tour de force dans une période où, paraît-il, les gens lisent moins. Ce que change le prix Goncourt, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord que vous avez du temps devant vous. C'est-à-dire que, comme on gagne un petit peu de sous, on est moins tributaire du calendrier éditorial pour toucher ses avaloirs, etc. Donc, voilà, vous avez un petit peu de temps pour réfléchir, pour travailler plus sereinement. La deuxième chose, c'est que ça vous apporte une visibilité. On vous ignore plus, on sait qui vous êtes clairement identifié, clairement repéré. Ça vous ouvre toutes les portes. Si je fais un petit mot et que je demande à rencontrer quelqu'un, généralement les gens sont plutôt contents de nous recevoir. Voilà, donc ça, c'est très agréable, ça facilite beaucoup la vie. Pour le travail de mes romans, je peux rencontrer des gens, des historiens, ils m'ouvrent les portes très, très gentiment. Donc tout ça, c'est des effets secondaires du prix Goncourt qui créent une sorte d'atmosphère autour de vous qui fait que les choses ont changé. Dans un article pour le Frankfurter, j'avais dit qu'il y avait finalement que 2 ou 3 éléments qui peuvent changer la vie d'un homme radicalement à la seconde main. Il y a le coup de foudre, il y a l'AVC, puis il y a le prix Goncourt.
Mais j'ai pas eu, dans
j'ai
cet
eu,
ordre.
J'ai eu, voilà, c'est pas dans cet ordre-là. Donc maintenant, il me reste plus que l'AVC, donc je vous tiendrai au courant.
Non, s'il vous plaît. À quel moment est-ce que vous avez appris que vous alliez recevoir le prix Goncourt ?
Je l'ai su au moment où ils l'ont annoncé. C'est pas un jeu truqué à destination du public. L'Académie Goncourt se réunit, elle décide, et puis il y a un type qui est le secrétaire de l'Académie Goncourt, je crois, qui arrive avec le micro, puis qui dit, voilà, le prix Goncourt est donné cette année à Madame un tel ou Monsieur un tel pour tel livre. Et donc vous l'apprenez en même temps que les autres, voilà. Ils sont assez malins au Goncourt, ils font un suspense, ils font 3 listes, une première liste, une quinzaine de noms, une deuxième avec 7 ou 8, et puis une dernière qui est le carré final, qui est dans la première liste, qui a été viré de la première liste, n'est plus dans la seconde, mais qui reste encore, et puis il y a ceux qui ont été chanceux d'être dans la deuxième liste, mais qui sont pas dans la dernière. Enfin, il y a un petit suspense comme ça, bon, qui n'amuse peut-être pas un grand monde, mais enfin, quand on est du métier, c'est un suspense intéressant, surtout quand on a la chance d'être dans la liste, quoi.
Et donc, Au revoir là-haut reçoit le prix Goncourt, parce qu'on n'a pas cité ce titre. Ouais. Au revoir là-haut reçoit le prix Goncourt. Est-ce que, du coup, vous avez tourné dans les classes, par exemple, avec ce livre ?
Quand on est dans la première liste du Goncourt, on vous propose de faire la tournée d'un certain nombre de lycées pour que les lycéens puissent vous rencontrer. C'est eux qui vont donner le Goncourt des lycéens qui se donne, je crois, après le prix Goncourt, le Goncourt des vieux, hein, d'abord. Hein. Moi, c'était le Goncourt des vieux que je voulais, parce que j'étais déjà pas jeune. Et le Goncourt des lycéens, ça me paraissait un horizon inatteignable. Donc, j'ai participé à ça. Et puis après, j'ai fait des lycées, des collèges. Souvent, on regroupe des classes pour que, quand je fais 500 km pour aller dans une classe, c'est pas pour me retrouver devant 22 mômes, c'est pas que je suis snob. Il faut que ça devienne un petit peu un événement, y compris pour vous. Donc souvent on regroupe des classes, donc j'ai facilement 120, 150, 200 élèves. Très vite on passe aux questions-réponses pour essayer d'établir un dialogue avec eux. Je fais pas de conférences, j'ai pas l'intention d'être un auteur pontifiant. Mais à partir du Covid, ça a changé. Déjà j'en faisais pas beaucoup parce que c'est très dépensier en temps et en énergie. Le Covid nous a appris quelque chose, c'est qu'on a commencé à faire ça en visio. Alors là j'ai pu en faire plus parce que ça me coûtait moins. Enfin, je m'installe à ma table de travail, je discute avec les étudiants, une heure après c'est fini, j'ai pas de transport, j'ai pas d'hôtel, j'ai pas de restaurant, j'ai pas de dîner, d'apparat. Voilà, c'est simple. Je fais une petite parenthèse dans mon boulot, donc c'est un peu plus facile. Il faut que les équipements soient là dans les lycées. Ils se débrouillent plutôt pas mal. Et il y a eu des rencontres assez amusantes, assez intéressantes avec un très très grand nombre de lycéens ou de collégiens. J'ai la chance d'avoir, avec ce livre, écrit un livre qui a été un petit peu au programme, d'abord été au programme du bac assez tôt. Les enseignants ont vite vu que c'était un livre qu'on pouvait leur donner. Ce qui leur fait peur aux collégiens ou aux lycéens, c'est l'épaisseur du livre. Hein. C'est un gros livre, c'est 530 pages, 580 pages. Donc pour eux, c'est un gros livre. Là. Ils ont très peur des gros livres. Mais en même temps, l'histoire file assez vite. Et d'une manière générale, c'est un livre qui a été plutôt bien accueilli. Qu'il soit bien accueilli par les enseignants, c'est une chose. Mais il faut d'abord qu'il soit bien accueilli par ceux à qui il est destiné, c'est-à-dire les lecteurs.
Vous disiez qu'un concours peut changer une vie. Je crois qu'une rencontre avec un écrivain en chair et en os, un auteur vivant pour des élèves, ça peut changer une vie également.
Alors, moi, je crois, oui. D'abord, parce que l'une des premières questions qu'on m'a posées, c'est, enfin, vous avez raison de le dire, c'est qu'il y a un môme qui s'est levé en disant « Oh, moi, je suis content de vous rencontrer. » Je pensais qu'un écrivain, c'est quelqu'un de mort. Alors, j'ai dit « Bah, écoutez, je suis ravi de vous apporter un démenti provisoire. Hein, » provisoire. Est-ce que ça peut changer une vie? Alors, moi, je pense que c'est utile parce que ça peut changer les choses. D'abord, parce que ce que vous dites est écouté au moment où vous avez les étudiants devant vous, ils vous écoutent. Et vous avez là l'occasion de faire passer un certain nombre de messages sur qu'est-ce que c'est que la littérature, à quoi ça sert, etc. Donc je pense que ça peut réactiver des paresses de lecture, on y reprend goût. Pour un certain nombre d'entre eux qui ont envie d'écrire, je pense que ça peut être aussi un agent déclencheur. Je ne sais pas si ça change la vie, mais je pense que si j'avais rencontré un écrivain quand j'avais 12-13 ans et que j'avais eu en face de moi un écrivain vivant, intéressant, etc., et généreux, il me semble que c'est quelque chose qui aurait pu changer ma vie, en tout cas. Ouais.
Vous vous dites ça parfois, j'aurais aimé écrire plus tôt, plus jeune?
Jamais. Jamais. Non, je regrette de ne pas avoir assez de temps devant moi, parce que je prends de l'âge, mais je ne regrette pas l'énorme avantage d'avoir commencé ma carrière tard, c'est que je n'ai jamais écrit mon premier livre. Vous voyez, le premier livre est toujours, presque toujours, un roman assez égotique, assez psychologique, très centré sur tout ce qu'on a besoin d'évacuer avant de devenir vraiment un écrivain. L'avantage de l'avoir fait après la psychanalyse, après la quarantaine, après la cinquantaine, après un deuxième mariage, etc. Vous voyez, quand on a vécu, au fond, d'une certaine manière, on a évacué tout ce qui aurait été l'objet du premier livre. On peut se mettre à vraiment faire une œuvre, enfin, on l'appelle comme on veut, enfin, à faire son boulot de romancier, et donc de commencer tout de suite par le second livre. Donc moi, j'ai pas de regrets, d'autant plus, je crois, que en publiant mon premier livre j'ai 56 ans, hein, quand je publie mon premier livre. D'abord, je suis une tradition très, très ancienne d'écrivains tardifs, à commencer par Saint-Simon, par exemple. J'ai l'impression que j'écris un meilleur livre que ce que j'aurais pu publier 20 ans auparavant. J'ai du regret de ne pas voir, je n'ai pas une espérance de vie qui me permette d'envisager tout ce que j'aurais envie de faire. Mais le regret de ne pas avoir commencé plus tôt, ça ne m'est jamais venu.
On est réunis aussi pour parler des adaptations en bande dessinée de vos romans. Et vous disiez tout à l'heure que Au revoir là-haut, vous aviez pensé tout de suite, très rapidement en tout cas, je ne sais pas si c'est tout de suite, voire peut-être en écrivant, à une adaptation.
C'est après, j'ai jamais écrit un livre. Je vois des images hein, pour écrire mes chapitres. J'ai besoin de me figurer les choses, donc ça reste assez visuel. Mais enfin, jamais je n'écris en me posant la question de l'adaptation, que ce soit télévisuelle, cinématographique ou en bande dessinée. Jamais. En revanche, une fois que c'est terminé, on se demande évidemment tout de suite ce que ça donnerait hein, si c'était transposé. Il se trouve que je n'ai pas la culture de la bande dessinée. Je ne suis pas un lecteur de bande dessinée, je n'ai pas de culture. Mais c'est un vecteur qui m'intéresse sur le plan narratif, sur narratologique, pourrais-je dire. C'est comment ça se raconte une histoire dans la contrainte qui est celle d'un album de bande dessinée. Et moi, les manières de raconter, c'est mon boulot, c'est mon job. Je suis un raconteur d'histoire. Donc, aller se colter avec différentes grammaires, différentes syntaxes, pour pouvoir après, quand vous revenez au roman, en tirer quelques enseignements, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Donc je me suis posé la question de la bande dessinée pour une autre raison, c'est que je savais, comme tous les auteurs, je savais qu'il y a plein de gens qui ne liraient pas mon histoire. Il y a plein de gens qui liront pas un roman. Il y a plein de gens qui liront pas un roman de 530 pages. Il y a plein de gens qui liront pas un roman de 530 pages qui parle de la Première Guerre mondiale. Enfin bon, en fait, vous vous rendez compte que c'est un espèce d'entonnoir qui fait que même quand vous avez touché beaucoup de gens, ce qui était le cas hein, de Revoir là-haut, qui était un succès de librairie, malgré tout, ce que vous avez touché, c'était une frange quand même relativement restreinte du bassin de population potentiel qui était le vôtre. S'intéresser à l'adaptation, c'est se dire que vous avez écrit une histoire et qu'il y a peut-être d'autres moyens, maintenant que cette histoire, elle touche d'autres gens. Donc la bande dessinée, ça me permettait de toucher des gens qui vont pas aller vers le roman, qui sont des lecteurs de BD. Comme il y a des lecteurs de romans, moi j'avais été un lecteur de romans qui lisait pas de BD, qu'il y a des lecteurs de BD qui lisent pas de romans. C'est parfaitement justifié, je veux dire. Moi ça m'intéressait de me dire, bon, ça serait intéressant quand même que cette histoire, elle puisse toucher des gens qui liront pas. Enfin, c'est ça à l'origine le moteur. Et je trouvais que la bande dessinée, ça allait aller vers un public plus jeune. Et j'avais envie que cette histoire, qui est une histoire de deux jeunes gens, c'est pas une histoire de vieux, c'est une histoire écrite par un vieux sur une vieille guerre, mais c'est une histoire de deux mecs qui ont 23 ans, et d'une petite fille qui en a 10. C'est ça les héros. Et en fait, quand vous parlez de Revoir là-haut, personne n'imagine que c'est avant tout le roman qui raconte l'aventure, les mésaventures de deux jeunes gens qui sortent de la guerre. Et ces jeunes gens, ils peuvent toucher, je pense, n'importe quel jeune lecteur. Je suis rentré dans la guerre de 14 quand j'avais 15 ans ou 16 ans avec les Croix de Bois d'Orgelès. Je m'étais beaucoup identifié à ces jeunes gens qui avaient 20 ans. Ils avaient quoi, 5-6 ans de plus que moi, jeunes lecteurs. Et c'est parce que je m'étais identifié à eux que j'ai compris cette guerre, que je l'ai ressentie presque charnellement. Je n'ai pas la prétention hein, d'avoir fait la guerre à leur place, hein, bien sûr. Mais enfin, elle m'avait touché vraiment physiquement, charnellement, émotionnellement. Je me disais, voilà, la bande dessinée, c'est l'occasion d'aller toucher un autre public. Quand on écrit une histoire, quand on passe son temps, quand on met 18 mois pour écrire une histoire, on a envie qu'elle soit lue par tout le monde, que ce soit sous la forme de roman ou autre. Moi, ça m'est égal. Vous voyez, que ce soit un roman, la télé, du cinéma, ça, je m'en fous complètement. Ça m'intéresse que les gens lisent du roman parce que je suis un romancier. Mais quand j'ai écrit une histoire, j'ai envie qu'elle soit connue du plus grand nombre de personnes. Et si c'est pas par le vecteur du roman, ça me convient très bien.
Quitte à circuler d'une forme à l'autre.
Oui, oui, circuler d'une forme à l'autre. Au Revoir là-haut, fait une BD, ça a fait un film, c'est un roman. Voilà, ça peut circuler d'une forme à l'autre et c'est intéressant sur le plan narratologique, s'il y a des jeunes gens que ça intéresse, de lire le livre, de lire la bande dessinée, de voir le film et puis de réfléchir. C'est abyssal comme travail. De réfléchir à, bon, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a glissé, qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve pas, comment est travaillée la question du point de vue, etc. Enfin, du point de vue de la compréhension de ce que c'est qu'une histoire, c'est une étude vraiment passionnante.
Puis de suivre les personnages, la manière dont ils sont représentés, la manière dont ils sont dessinés, dont ils sont pensés. Comment est-ce que vous les rencontrez, vos personnages ? Est-ce que ce sont eux qui vous font naître une histoire ?
Je ne sais pas si vous interrogiez d'autres romanciers. Je pense que chacun doit avoir sa manière à lui de commencer une histoire. Moi, franchement, si je savais comment commence une histoire, d'abord je vous le dirais pas. je ne le sais pas parce que d'un livre à l'autre, ça change. Parfois, vous partez d'une situation. Pour Alex, par exemple, c'est même parti d'un schéma abstrait, d'un schéma géométrique. Pour d'autres, ça part d'une situation. C'était le cas, par exemple, pour Miroir de nos peines, la scène du Louise avec le médecin. De temps en temps, ça part d'une thématique, j'ai envie de travailler sur l'après-Première Guerre mondiale. Vous voyez, ça peut partir de n'importe où. Après, vous fabriquez vos personnages, parce que, avant tout, ce qui va raconter une histoire, c'est ce qui se passe chez les personnages. Il faut bien se rendre compte que, quel que soit le vecteur pour raconter votre histoire, bande dessinée, cinéma, télévision, roman, de toute manière, c'est toujours le personnage qui va raconter l'histoire. Il va le raconter en agissant, pas lui qui va être le narrateur, mais c'est toujours ce qu'il fait et ce qu'on va percevoir de lui qui nous raconte l'histoire. Donc les personnages très vite deviennent essentiels à la construction. Mais par où vous êtes rentré pour arriver à la construction des personnages, c'est extrêmement varié d'un livre à l'autre.
Et vous y repensez ensuite à ces personnages, vous disiez, par exemple, vous aviez une affection particulière pour Monsieur Jules, il y en a que vous aimez plus que d'autres, auxquels vous, finalement, rétrospectivement, peut-être vous découvrez un attachement.
On ne peut pas écrire des histoires sensibles sans être à la place des personnages. Ce qui veut dire qu'il faut se mettre aussi bien à la place des personnages qu'on aime que ceux qu'on n'aime pas. C'est ça une des grandes difficultés de faire un roman. C'est que si vous prenez le parti d'un lecteur, vous ne pouvez pas faire un roman. Si vous partez du principe qu'il y a des personnages que vous aimez et d'autres que vous n'aimez pas, très vite, vous allez vous trouver à desservir les uns au profit des autres. Ou servir les uns au détriment des autres. Donc, quand vous êtes romancier, vous devez inverser cette problématique et être au service de votre histoire. Être au service de son histoire, c'est être au service des personnages qui la racontent. Et dans ces personnages, il y a ceux qui vous sont proches, ceux qui vous sont éloignés, mais il n'y a pas ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas. Moi, je serais incapable de faire vivre sur 500 pages un personnage que je n'aime pas. Je peux avoir des personnages de salauds. Par exemple, j'ai le cas dans Couleur de l'incendie, par exemple. Gustave est un personnage extrêmement antipathique. Dolnay Pradel, dans Au revoir là-haut, est un personnage de salaud intégral. Mais il y a une jubilation à manipuler un personnage négatif. Et c'est pas de la détestation, vous ne détestez pas le personnage. Moi, j'ai un personnage là, récurrent qui s'appelle Geneviève, qui court à travers trois livres, qui va terminer sa carrière dans le quatrième, la série qui a été entamée avec Le Grand Monde. C'est un personnage absolument détestable. Je l'adore. Je l'adore parce qu'elle me fait rire, qu'elle me donne l'occasion de dire des choses, qu'elle me donne l'occasion de poser des questions. Et donc, c'est un personnage que j'aimerais pas rencontrer dans la vie. Si je la rencontrais, je prendrais immédiatement la fuite. Mais à manipuler, à travailler comme personnage, c'est assez passionnant. Et donc, moi, j'ai pas de personnage que j'aime ou que j'aime pas. Je crois que l'attachement, ça vient après. D'abord, vous aimez les personnages ou pas. Enfin, ils sont proches de vous au moment où vous écrivez. L'attachement, c'est ce qui reste quand le livre est parti. Quand il est devenu loin de vous, l'attachement, c'est le lien qui reste tissé entre des personnages qui ont disparu et vous qui êtes encore là.
Est-ce qu'il y en a qui vous surprennent ou qui vous font peur?
Les personnages ne me surprennent pas. Ils font des choses qui sont surprenantes. Ils ne surprennent pas parce que c'est moi le patron et que j'entends que les personnages fassent ce que je leur demande. Sur ce plan-là, je suis un patron de combat. Vous voyez, à côté, le MEDEF, c'est de la rigolade. Moi, j'entends que les personnages fassent ce que je veux et sinon, je les fous dehors. Il n'y a pas d'indemnité, rien du tout. C'est vraiment la loi patronale la plus ancien régime que vous puissiez imaginer. Non, je veux rester maître de mon histoire, donc les personnages font ce que je décide. En revanche, vous avez raison, c'est que s'ils ne me surprennent pas, il leur arrive de faire des choses qui me surprennent. Parce que j'écris un truc et je me dis « Ah !» Ah mince, j'ai pas vu venir ça. J'ai pas anticipé le fait qu'il pouvait dire ça ou qu'elle pouvait faire ça. Et donc là se pose une question d'économie du récit qui est de vous dire, bon maintenant si je garde ça, quelles conséquences ça a pour mon histoire? Alors si les conséquences sont positives, vous le gardez. Et si elles sont négatives, bah, vous changez d'idée et puis voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au fil de la plume, et ça c'est quand même l'une des grandes magies du roman et du plaisir d'écrire, c'est vous êtes dans l'émotion de vos personnages et vous êtes de temps en temps devant la surprise de quelque chose qui vous est venu, que vous attribuez au personnage, mais qui vient de vous avant tout. C'est pas le personnage qui vous surprend, c'est vous qui vous surprenez en manipulant votre personnage.
C'est un bon moment, non?
Oui, c'est un bon moment, heureusement pas trop fréquent. Ben oui, parce que si ça vous arrive trop fréquemment, c'est que votre histoire n'est pas solide. Si ça vous arrive trop fréquemment, ça veut dire que votre histoire n'est pas mûrie et qu'au fond, elle flotte et qu'il y a plein de choses qui vous surprennent. En fait, vous n'êtes pas le maître des choses. Vous êtes dans un flux dans lequel vous êtes baladé et si vous voulez rester le maître de votre narration, il faut espérer que ces moments-là vont survenir, mais pas en trop grand nombre, ça serait le signe que vous travaillez mal. Me semble-t-il.
Que vous aviez appris d'autres grammaires en travaillant sur des scénarios de bande dessinée. Est-ce que vous avez le sentiment que ces grammaires-là ont un impact sur votre grammaire romanesque?
Oui. Ce que j'ai appris dans le cinéma, ce que j'ai appris à la télévision, ce que j'ai appris dans la bande dessinée, ça n'a pas révolutionné la manière dont j'écris. Ça n'a pas changé ce que je suis ni ce que je fais. En revanche, ça m'a aidé à me poser de nouvelles questions. Encore une fois, on est en narratologie, là. Ce dont on parle, c'est qu'est-ce que c'est que raconter une histoire? Comment on fait pour raconter une histoire? Du fait que tous ces médias ont une grammaire particulière, donc des contraintes particulières, mais aussi des richesses spécifiques, fait que vous vous engouffrez dans des voies dans lesquelles vous ne seriez pas engouffré dans le roman, parce que le roman, c'est le seul média qui vous permet tout. Pourquoi c'est une discipline phare? C'est parce que c'est la seule qui n'a pas de contraintes. n'ai pas de contrainte des pages, je n'ai pas la contrainte de ce que je dis, je n'ai pas de contrainte. La bande dessinée, elle a la contrainte du format, elle a la contrainte du dessin, elle a la contrainte de la vignette. C'est énorme. Le cinéma, il est contraint par le casting, par le découpage, par la rythmique, par la musique. En fait, des contraintes partout. Dans le roman, il y en a très peu. Il y en a, mais il y en a très peu. Donc c'est la discipline phare parce que c'est celle qui peut tout se permettre. C'est la raison pour laquelle le roman reste encore un bassin énorme de propositions narratives pour le cinéma, la télévision, la bande dessinée. Pourquoi on adapte des romans ? La réponse, elle est là. Elle est dans le fait que le roman a une ampleur, que c'est un média qui n'a pas énormément de contraintes. Dans le roman, vous pouvez faire à peu près tout.
Beaucoup de liberté.
Ben oui, en toute liberté. Vous voyez, je discutais avec Albert Dupontel, là, il n'y a pas longtemps, il était venu présenter son film, on papotait. Ah mais, oh, oui, mais ça coûte trop cher. Moi, quand j'écris Murat de nos peines, je veux la scène, et alors moi, ça me prend 20 secondes d'écrire, et puis ça me prend même pas une goutte d'encre, hein, d'écrire qu'il y a 40 Stukas qui arrivent sur la route. Vous voyez, et moi, les 40 Stukas, en deux minutes, ils sont là. Si je dis ça à un producteur, il s'arrache les cheveux. C'est des contraintes énormes. Quand vous avez été tâté de la bande dessinée, du scénario, etc., vous avez appris à vous poser des questions qui sont dues aux contraintes, souvent, et aux richesses de ce média-là. Alors la question après, c'est qu'est-ce que vous en faites ? Je ne me pose jamais la question de dire « bon, maintenant, je vais écrire comme ça ». Mais en même temps, je me rends compte que, 6 mois plus tard, je me pose à propos d'un personnage, d'une situation, d'un découpage, une question que je me suis posée dans la bande dessinée ou dans le scénario et qui ne me sera pas posée en tant que romancier. Là, on peut dire que j'importe, j'exporte du roman quand je vais au cinéma, à la télévision ou dans la BD, mais j'importe des formes narratives et des questions narratives dans le roman lorsque j'y retourne.
Vous disiez qu'on pouvait tout faire dans un roman, néanmoins, vous avez confié aussi que vous étiez assez envieux des gens qui dessinaient.
Oui, mais là, pour une autre raison, je n'envie pas leurs contraintes parce que je n'ai pas envie de vivre avec ça. Je n'aimerais pas avoir les contraintes de la bande dessinée qu'on n'imagine pas, parce que comme on a des dessinateurs, des illustrateurs, des scénaristes qui ont beaucoup de talent, vous ne vous rendez pas compte au prix de quelle énergie et de quel savoir-faire ils arrivent à faire une histoire qui se tient, qui est chouette à lire, qui est intéressante, que vous refermez avec bonheur, avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'intense. Ce que j'envie, c'est le dessin. Ce que j'envie, c'est le fait que, moi, tout va passer par les mots, alors que j'aurais vraiment aimé que ce que je saisis, ce que je crois saisir, les sensations que j'ai comme ça dans la vie sociale, les émotions que je peux avoir, je ne me vois pas les écrire, je ne vais pas faire un journal, je ne transmets pas de correspondance. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça ? J'en fais rien. Ça s'accumule et puis après ça ressort dans les romans, ça ressort ou ça ressort pas, des fois c'est perdu. Alors qu'avec le crayon, vous voyez, j'aurais adoré avoir toujours un carnet, être capable de croquer comme ça, comme le font les dessinateurs de BD, d'un seul coup en 3 coups de crayon, ils vous ont posé quelque chose. Ça, c'est un bonheur que je n'aurais jamais. Et là, effectivement, je suis très envieux. J'ai salaud de dessinateur.
Une scène qui ne se raconte pas ou une émotion, quelque chose de fugace ?
Oui, quelque chose de fugace. C'est-à-dire, j'aurais aimé pouvoir attraper, voir et garder l'intensité ou l'exactitude, la précision de quelque chose que j'ai ressenti, que j'ai vu, et dont je me fais peut-être l'illusion que le dessin me l'aurait permis. Je ne suis pas sûr de ça, mais c'est peut-être une idée très romanesque ou simplement bébête de penser comme ça qu'on peut faire un croquis. Mais vous voyez, je regardais il n'y a pas longtemps encore, je m'intéresse beaucoup à Hugo, et je regardais les dessins de Hugo, dessinateur absolument prodigieux. Je vois bien les dessins qui sont en marge, il a un célèbre Gavroche, c'est 3 traits de crayon, il les a posés, son personnage est là, j'ai envie de dire le roman est terminé, il n'a plus qu'à l'écrire. Moi ça je ne peux pas me permettre, parce que je n'ai pas le talent de ça.
Et puis la rapidité.
Oui, l'instantané quoi.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez quitté la noirceur.
Ah non, j'ai quitté le noir. Non, le noir et la noirceur, c'est pas la même chose. Le noir, c'est-à-dire j'ai abandonné le roman noir et le roman policier, mais la noirceur, non. J'ai même l'impression que mes romans sont de plus en plus noirs, d'une certaine manière. J'ai l'impression que le roman que j'écris, là, que je termine, qui se passe à Prague en 1959, est un roman plus noir encore que le précédent, qui était déjà un truc sur l'avortement, sur une jeune femme qui veut avorter. C'est pas marrant, hein. Un village détruit par un barrage hydroélectrique. J'ai l'impression que la noirceur, je ne l'ai pas abandonnée, mais que je dois lutter un peu contre le fait que maintenant, je peux me laisser aller à ce que je suis et que j'ai fondamentalement un fond tragique. Et que ce fond tragique, si j'y prête pas attention, il va rendre ma carrière tragique elle-même. C'est peut-être une question en termes de carrière, mais j'ai pas envie, je suis pas un auteur de tragédie. Je suis un romancier qui utilise la tragédie pour véhiculer une certaine vision du monde, mais je ne suis pas un tragédien, je suis un tragique. Et en vieillissant, j'ai l'impression que je me rencontre un peu plus avec moi-même, et donc la tragédie est plus au centre de mes préoccupations.
L'humour aussi, on a pu l'entendre.
L'humour, ouais, parce qu'il est consubstantiel à ce que je suis. Vous voyez, on faisait une conférence de presse tout à l'heure. Bon, au début, c'est un peu compassé. Bon, je peux pas m'empêcher de dire une connerie. C'est plus fort que moi. Je suis comme ça. C'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que fonctionnent mes livres. En fait, quelqu'un qui m'écoute et quelqu'un qui me lit a vécu à peu près la même expérience. Je crois que mes livres ressemblent beaucoup à ce que je suis. Et je suis dans la vie un homme qui est plutôt joyeux, plutôt jubilatoire, plutôt amusant, enfin... Ouais, peut-être. Enfin, en tout cas, je suis plutôt détendu. J'aime bien rigoler. Et j'ai l'impression que mes romans savent le faire. Oui, je pense à Geneviève. Un personnage vraiment tragique. Elle est extrêmement méchante. Extrêmement méchante. Elle est même mauvaise. Mais elle est tellement mauvaise qu'au bout d'un moment, elle pose une question. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Comment est-ce qu'on le devient comme ça? C'est une vraie question. Et au fond, vous voyez, derrière la drôlerie du personnage, derrière le fait que ben, quand j'écris, elle me fait marrer. Vous voyez, je suis en train de corriger là, des épreuves. Et hier, j'étais dans ma chambre d'hôtel, je lisais une scène avec elle. Et franchement, je me bidonnais parce que je trouvais que la réplique était très drôle, que la scène, je la voyais bien. C'est très marrant. Mais en même temps, je me rends compte qu'au bout de 3 livres, ce personnage devient une véritable tragédie. Je trouve ça intéressant.
Merci beaucoup Pierre Lemaitre, je crois que tu es au courant.
Merci pour cette conversation.
À très bientôt sur Aide de Géant peut-être.
Volontiers.
Aide de Géant est un podcast préparé et réalisé par l'École des Lettres. L'École des Lettres est une revue pédagogique, littéraire et culturelle publiée par l'École des Loisirs. La musique au générique est extraite de My Mingus Sol, album du saxophoniste, clarinettiste, flûtiste et arrangeur Philippe Chan. À bientôt pour un prochain épisode sur Aile de Géant.